Bonjour et bienvenue dans Louvain Christianisme. Aujourd'hui, nous poursuivons notre parcours dans l'histoire de l'Université catholique de Louvain avec la période la plus récente, car notre histoire récente a, elle aussi, apporté son lot de bouleversements à l'Université. Tout le monde connaît par exemple l'importance qu'a eu le Concile Vatican II sur la vie de l'Église catholique dans les 50 dernières années. Mais ce que nous savons peut-être moins, c'est le rôle que l'Université catholique de Louvain a joué dans cet événement et les répercussions que celui-ci a eues sur l'Université elle-même. Pour nous en parler, nous avons à nouveau le plaisir d'accueillir Luc Courtois, professeur d'histoire contemporaine à l'Université catholique de Louvain et directeur du Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastique. Alors professeur Courtois, comment le Concile Vatican II a-t-il été vécu à Louvain ?
Alors, Louvain avait une place un peu particulière dans la mesure où ça a été longtemps la seule université catholique complète dans le monde, c'est-à-dire une université qui couvrait toutes les disciplines, école d'ingénieurs, médecine, droit, faculté de lettres, psychologie bientôt, etc., et théologie. Hein. Donc, un des grands avantages de l'Université de Louvain, c'est que la faculté de théologie était depuis l'origine immergée au sein de l'université complète, je dirais, et où les informations circulaient. Donc, par exemple, un des grands biologistes de la fin du XIXe siècle, Carnoy, c'est un prêtre diocésain de Tournai, qui est à la fois théologien et à la fois un éminent biologiste. Hein. Son successeur, Grégoire, le chevalier Grégoire, même chose, tournaisien, grand biologiste, c'est lui qui a découvert la méose, donc c'est vraiment un grand format. Mais ces gens étaient à la fois théologiens et scientifiques. Et donc, ils avaient des débats fréquents avec les professeurs de la faculté de théologie. Et donc, les théologiens à Louvain étaient quand même en contact avec toutes les évolutions et les progrès récents des sciences. Et donc, ça a donné à la réflexion théologique une coloration particulière. Par ailleurs, très vite, Louvain, sur le plan théologique, s'est illustré dans ce qu'on appelle la théologie positive, c'est-à-dire l'histoire, hein, avec en patrologie un pionnier comme la Deuse, avec, je dirais, un exégète de l'Ancien Testament, Van Onaker, et surtout...
Oui, dont nous parlions la fois précédente.
Voilà, et donc, surtout aussi Cauchy. Alors, Cauchy, c'est un cas très particulier, c'est un prêtre du diocèse de Tournai, mais qui n'est pas théologien, lui. Donc... Il n'a pas fait des études de théologie, il s'est inscrit à la faculté de lettres et il a fait des études d'histoire, mais totalement histoire profane. Mais c'est un prêtre qui s'intéresse à l'histoire de l'Église et donc il transfère purement et simplement les données critiques de l'histoire profane allemande sur le domaine de l'histoire religieuse. Et il lance, avec la 200-1900, une revue qui s'appelle la Revue d'histoire ecclésiastique, qui existe toujours, et qui est produite conjointement par l'UCL et la KU Leuven, et donc qui est une revue qu'on pourrait qualifier d'histoire positive, c'est-à-dire qu'on y fait de l'histoire religieuse comme on fait de l'histoire profane. Alors c'est très intéressant parce que... L'Allemagne, qui est le pays qui a mis au point la critique historique moderne et les premiers développements de l'histoire scientifique, l'histoire profane ne s'intéresse pas à l'histoire de l'Église en Allemagne. L'histoire de l'Église se fait par des théologiens dans les facultés de théologie catholique ou protestante. Et il y a encore une controverse il y a quelques années en Allemagne sur la question de savoir si l'histoire de l'Église est une discipline théologique ou pas. C'est une question qui ne se pose plus à Louvain depuis Cauchy. On fait de l'histoire, il n'y a qu'une façon de faire de l'histoire, et on fait de l'histoire de l'Église comme on fait de l'histoire des petits pois. Point. c'est la donnée de base. Mais ce n'est pas encore comme ça partout. Donc je dirais que c'était une position assez progressiste. Donc je dirais théologie positive, donc un intérêt pour les sources de l'histoire du christianisme, ce qui va donner lieu à des développements intéressants, notamment sur le plan de la liturgie, et c'est la naissance du mouvement liturgique avec Don Lambert Baudouin, qui, au congrès catholique du début du siècle, voulu par Mercier d'ailleurs, fera une communication sur la vraie prière de l'Église, à savoir la messe, et donc c'est le début du mouvement liturgique. Vous avez aussi le développement d'une école de patrologie à Louvain qui est remarquable, avec des gens qui vont suivre la Deuse comme le bon, bientôt dragué, et qui étudie les pères de l'Église. Donc c'est le mouvement patristique, hein, et en matière d'exégèse, ben, à la suite de la Deuxième Vatican Concile, vous avez des exégètes importants. On peut parler ici, dans les années 50, de gens comme Serfaux, puis Massot,
D'accord.
qui étaient exégètes, ou aussi Mgr Descamps. Ce sont des enfants de ces trois mouvements. Or, je dirais, ce sont précisément ces trois courants qui vont être à l'origine
de
Vatican II. Et donc, au moment de Vatican II, après des moments de crise ou de difficulté, parce que la fin du pontificat de Pie XII a été un peu tendue, notamment avec l'encyclique Humanae Generis. On a parlé de la phase antéchrist du pontificat de Pie XII. Il y a eu des tensions, notamment la crise sur la question de la nouvelle théologie, qui a vu la condamnation de Charlier et Draguet à Louvain. Draguet a perdu son enseignement en théologie, il a dû continuer en orientalisme. Donc malgré ces tensions, je dirais, le concile va être nourri par les réflexions de nos théologiens louvainistes qui sont, je dirais, dans une formation depuis 50 ans, je dirais, dans un développement qui va dans le sens, je dirais, de ce que le Concile va valider. Hein. Cela explique que les théologiens de Louvain, ou même les évêques qui étaient sortis de Louvain, je pense au cardinal Sunens, qui avait été vice-recteur à l'Université de Louvain, qui avait été formé ici, vont jouer effectivement un rôle déterminant au Concile. Sunens avait été désigné par Jean XXIII auprès de son successeur Montini, qui lui avait dit suivez Sunens. Hein, donc Sunens a joué un rôle tout à fait important au Concile. Et alors, les experts belges, hein, des gens comme Kiels, qui avait écrit sur la théologie du Laïka, Serfaux, pas mal de gens qui étaient aux avant-postes de la réflexion et qui ont collaboré à l'élaboration de textes conciliaires très importants.
D'accord. Et en retour, le concile, alors, qui tombe en plus à un moment assez charnière, si on pense à mai 68 et puis bientôt après la scission de l'université,
oui, donc,
tout ça a eu une influence sur l'université, j'imagine.
Oui, bien, oui, certainement. Donc tout ça, ce n'est pas un hasard. Hein. Mai 68... Et le concile, on peut les mettre en parallèle. Ce sont deux moments charnières, un pour l'Église, l'autre pour la société occidentale, qui interviennent après les Trente Glorieuses, donc une période d'expansion économique et de sans précédent. Hein. Et je dirais avec des changements majeurs de mentalité. Je pense que mai 68 marque l'émergence du sujet. Hein. C'est-à-dire que jusque-là, on était dans une démocratie fort encadrée. Et mai 68 exprime l'idée de l'épanouissement individuel avec les bons et les mauvais côtés. Mais je dirais, on sort d'une démocratie encadrée pour une démocratie, je dirais, de l'autonomie du sujet. Mmh. Et d'une certaine manière, on trouve ça aussi dans... certaines tendances de Vatican II, par exemple le décret sur la liberté religieuse, c'est une avancée tout à fait fondamentale de l'Église dans le sens du monde moderne et de la liberté individuelle de conscience. Et pendant longtemps, il y avait des tensions, je dirais. On admettait la liberté de conscience, mais... la conscience bien formée, disait-on. Mmh. Donc je dirais, voilà, donc oui, il y a des parallèles. Alors c'est aussi, sur le plan sociétal, un moment, je dirais, d'affirmation de cet mouvement. Et en Belgique, on pense notamment au mouvement flamand. Donc c'est une histoire aussi compliquée.
Oui. Nous n'aurons pas le temps de revoir aujourd'hui.
Voilà, mais qui va provoquer... la scission de l'université. Au départ, je dirais, souvent on ne se rend pas compte, mais ça n'était pas une volonté de scinder. Hein. Il se fait que l'université s'était flamandisée, enfin, bilinguisée, déjà à partir de 1911, donc on a introduit les premiers cours 11 cours. Donc, ce n'est pas grand-chose, mais 11 cours en langue néerlandaise à Louvain avant la guerre 14-18, donc en 1911. Et puis, les choses vont s'accélérer avec la création d'une université flamande à Gand par les Allemands en 17, et puis une université, la Nolf Boutique, comme disaient les Flamands, une université bilingue à Gand, et puis unilingue à partir de 1925. Et donc, je dirais, à Louvain, on suit le mouvement, de telle sorte qu'en 1935, tous les cours sont dédoublés. Hein, donc à peu près tous les cours, sauf en théologie, où les cours se donnaient en latin, donc il n'y avait pas de problème.
C'est ça.
jusqu'au Concile Vatican II. Et je dirais, le problème, c'est que beaucoup de Wallons ne parlaient pas flamand, et que donc les Flamands avaient souvent l'impression que, au fond, Louvain était une université francophone avec quelques cours en néerlandais. Tous les organes de décision se réunissaient en français, les conseils de faculté étaient en français. Or, je dirais, il y a une mutation sociétale qui se fait aussi en France après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a une démocratisation de la société, et donc beaucoup de jeunes professeurs flamands parlaient moins bien le français qu'avant et commençaient à en avoir, être fatigués, je dirais, de ce système. Et donc, je dirais, tout cela mis dans l'autre fait que, de fil en aiguille, les choses ont conduit, je ne sais pas si on a le temps de l'évoquer, mais ont conduit à une séparation. Au départ, si vous voulez, la question s'est posée lorsque, en 62-63, le gouvernement a mis sur la table l'idée des lois d'expansion universitaire, c'est-à-dire que le nombre d'étudiants à l'université, à Louvain par exemple, était passé de 5 000, grosso modo, à la fin de la guerre, à 15 000 dans les années 60. Donc, fois 3, mais rien n'avait suivi. Les auditoires, les auditoires étaient remplis, on s'asseyait dans les couloirs, enfin bon. Donc je dirais, c'était comme ça partout. Et donc le gouvernement avait dit, on va mettre de l'argent sur la table pour permettre aux universités de décongestionner les centres urbains, et ainsi de suite. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'à Louvain, du côté flamand, on a dit, mais si l'État nous donne des sous pour essaimer les candidatures, les francophones n'ont qu'à aller s'installer à 1000, à 10 km de Louvain, mais à 1000 ou à Lost, enfin non, à Lost, un peu plus loin, mais où tire le mont, c'est pas un drame. Et comme ça, je dirais, on protégera le caractère flamand de Louvain. Le contexte était particulier parce que, malgré les lois linguistiques des années 30 qui avaient reconnu le flamand en Flandre, le français continuait à progresser en Flandre et les parlers flamands étaient réellement menacés quand on vote les lois linguistiques de 62-63. Donc je dirais, il y avait dans la jeunesse flamande une aspiration à préserver la langue. Et les Flamands redoutaient particulièrement ce qu'ils appelaient la tache d'huile, c'est-à-dire l'extension de la poche francophone de Bruxelles dans le reste du Brabant, et notamment à Leuven. Hein. Et donc ils étaient fort sensibles au fait que si on enracinait encore davantage la section francophone de Louvain à Louvain, on risquait une extension de la francophonie au sein du Brabant flamand. D'où leur idée de mettre les candidatures au départ à 1000. Et donc c'est comme ça que l'affaire s'est finalement engagée dans ce domaine-là.
Oui, et donc l'université de Louvain et entre autres sa faculté de théologie s'est retrouvée à un moment donné scindée. Et j'imagine qu'on en voit les conséquences encore aujourd'hui facilement, même si vous, dans votre travail, vous êtes, si j'ai bien compris, à cheval entre KU Leuven et UCL.
La revue d'histoire ecclésiastique, les Ephemerides Theologicanovenensis, et le dictionnaire d'histoire géographique ecclésiastique sont à la fois bifacultaires, donc ils relèvent des facultés de lettres et de théologie. C'est un héritage de Cauchy, hein, qui était... un homme de lettres, mais qui donnait cours en théologie, et des deux universités, UC Louvain et KU Leuven. Donc, ça continue à être unitaire, si vous voulez, de ce point de vue-là. Et ça ne pose pas de problème.
Non, oui, j'imagine. Et est-ce que vous pourriez nous dire un mot de plus sur le travail que vous y faites et sur ce que produit, entre autres, la revue d'histoire ecclésiastique?
Alors, la revue d'histoire ecclésiastique donc, a été fondée par Cauchy en 1900 et la Deuse, comme je vous l'ai dit, est certainement une des grandes revues d'histoire du christianisme au niveau mondial. Et le reste, Donc je dirais, elle s'est, on a fêté le centenaire il y a quelques années. Donc ça reste une revue de référence dans le secteur du christianisme, et même de façon plus large, parce que la conception, je dirais, de la revue est fort ouverte, et donc même du point de vue de l'histoire profane, ça reste une référence également, hein. Alors il y a eu des évolutions par rapport à la revue traditionnelle. On a ces dernières décennies fait évoluer la structure, donc notamment en informatisant pas mal de choses. Donc toute la revue a été mise en ligne par ProQuest, donc on peut consulter tout l'héritage en ligne pour le passé. Et puis depuis une bonne quinzaine d'années maintenant, les numéros sont accessibles également en ligne au fur et à mesure. Il y a un abonnement papier, mais qui peut être conjoint avec un abonnement digital. Et alors, on a fusionné la bibliographie d'histoire de l'Église, de la religion ecclésiastique, avec la bibliographie de théologie qui était publiée par la revue commune, hein, UCLKUL, les Éphémérides. Donc, je dirais, ça donne l'index religiosus, qui est entièrement digitalisé chez Brepols et qui offre une banque de données en théologie et en histoire de l'Église de plusieurs centaines de milliers de titres, donc qui est un peu un des trois grands fournisseurs de bibliographie dans le domaine de l'histoire du christianisme.
On voit que Louvain garde son importance.
Voilà. Dans et le donc domaine. Le dictionnaire, lui, il a été officiellement repris par la revue d'histoire ecclésiastique il y a une quinzaine d'années. Au départ, c'est un dictionnaire qui avait été fondé par Mgr Baudrillard à Paris en 1909, donc les premiers fascicules ont paru en 1909, premier volume relié en 1912. Et puis, je dirais, après la Première Guerre mondiale, Baudrillard a estimé qu'il n'avait pas les ressources suffisantes que pour continuer à suivre, et donc il a proposé à Louvain de reprendre ce dictionnaire, qui a été alors repris par De Meyer, enfin Cauchy et puis De Meyer, qui a succédé à Cauchy, qui l'a dirigé jusqu'en 1952, et puis ça a été le Chanoine Aubert, qui lui l'a piloté jusqu'en 2009.
D'accord.
Donc c'est quand même un bel exercice. Alors, je dirais le dictionnaire, au départ, était publié chez Le Touzet, mais il a été digitalisé à partir de 2006. Donc, tous les premiers volumes ont été entièrement digitalisés et sont accessibles sous le titre Dictionnaire et Géographique chez Brepols, donc sous Brepolis. Et tous les fascicules qui sortent sont digitalisés et mis en service après 6 mois, donc en consultation après 6 mois. Donc, alors, le dictionnaire, comme le nom l'indique, c'est un dictionnaire d'histoire et de géographie, c'est-à-dire que pour tout nom de personnage, nom de lieu, qui a une connotation liée à la religion chrétienne, enfin, religion chrétienne ou catholique, donne une notice. Donc ça va de tous les acteurs de l'histoire de l'Église, au diocèse, au lieu d'abbaye, etc. Voilà. Et donc là aussi, il y a eu des évolutions. Hein. Donc on continue à avoir une version papier, mais une version digitale. On publie maintenant des fascicules qui vont de A à Z à chaque fascicule, ce qui permet de publier immédiatement tout ce qui couvre l'alphabet de A à Z. Et donc, il y a alors un index cumulatif qui est accessible sur le site de Brepol, ce qui permet de consulter chaque fascicule, mais par ordre alphabétique des notices.
Très bien, d'accord. Merci beaucoup pour ces explications précises. Nous arrivons maintenant à la fin de notre série d'émissions avec le professeur Courtois, que je remercie encore vivement pour toutes ces explications passionnantes. Et quant à nous, chers auditeurs, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour de nouvelles émissions. Louvain Christianisme est un podcast animé par l'Institut de Recherche Religion, Spiritualité, Culture, Société de l'Université catholique de Louvain. Retrouvez-nous aussi dans Louvain Religion. À la semaine prochaine.